Bonjour et bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Letor, cofondateur d'AFL Diversity et du Grand Prix Diversité et Inclusion. Dans cette troisième saison du podcast, je vous propose de partir à la découverte de personnalités qui œuvrent pour la diversité et l'inclusion dans les organisations. Ce podcast est fait pour vous donner des idées, vous donner envie d'agir et faire avancer vos organisations sur ces enjeux. Bonne écoute! Je reçois aujourd'hui Frédéric Potier. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, je suis vraiment ravi de te recevoir sur cette saison 3. Tu étais d'ailleurs mon tout premier invité sur la saison 1. C'était il y a 2 ans et s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc, je suis vraiment très heureux qu'on puisse se reparler et te recevoir à nouveau sur cet épisode. Je te propose de te présenter pour commencer. Ton parcours est inspirant. En tout cas, il m'inspire. Peux-tu nous en parler, nous raconter, nous parler aussi de tes engagements ?
Merci beaucoup Adrien. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai d'abord commencé par servir la haute fonction publique d'État. Je suis diplômé de Sciences Po à Bordeaux, puis l'ENA, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur, le corps préfectoral. J'ai passé quelques années place Beauvau, ministère de l'Outre-mer et dans les préfectures. Comme beaucoup de hauts fonctionnaires, j'étais happé par le monde politique et ça m'a amené à servir plusieurs personnalités politiques. D'abord l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, puis les premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, où j'ai été conseiller outre-mer. Donc, je m'occupais de la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, autant de terres exotiques et passionnantes. Et à l'issue de ces 3 années très riches à Matignon, j'ai été nommé dans une fonction complètement atypique pour l'appareil d'État, qui est celle de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, avec un H, poste que j'ai occupé pendant plus de 3 ans. Et dans ces fonctions-là, j'ai été amené à concevoir, à piloter, à déployer à la fois des plans nationaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais aussi l'exercice assez similaire en matière de haine anti-LGBT. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec les associations, j'ai passé beaucoup de temps avec les lieux de mémoire, avec des personnalités inspirantes, pour coordonner une politique interministérielle complètement transversale et très adossée sur l'action associative. Et donc moi, j'ai été très heureux de faire cette mission-là parce que j'ai rencontré des gens passionnants, j'avais des journées très diverses. Je commençais le matin avec les assos trans, et je finissais avec les rabbins orthodoxes. Et puis le midi, je voyais des grandes entreprises publiques et privées. Donc il y avait une très 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 grande richesse humaine et surtout il y avait un engagement qui était chevillé au corps de toute mon équipe qui était de lutter contre la haine et le refus de l'altérité. Donc j'ai passé vraiment presque 3 ans et demi je crois dans des fonctions assez exposées quand même malgré tout il faut dire parce que c'est des sujets pas simples médiatiquement avec beaucoup de faits divers et à l'issue de cette période là j'ai été chassé comme on dit par un cabinet de recrutement donc ça fait toujours très bien très chic et ça fait toujours beaucoup de bien à l'ego surtout d'être chassé par un cabinet de recrutement pour rejoindre la RATP. Donc, j'occupe aujourd'hui les fonctions de délégué général à l'éthique et à la conformité au sein du groupe RATP, où je suis chargé de toutes les questions de lutte contre les discriminations, contre le harcèlement, et j'ai toute la partie, évidemment, diversité, laïcité et aussi conformité compliance dans une très grosse organisation avec plus de 60 000 salariés.
Alors, quand on a 60 000 salariés, on est par définition, j'imagine, très divers, avec des gens qui viennent d'origines très différentes. Tu le disais dans le premier épisode de la saison 1, il n'y a pas une RATP, mais des RATP, avec de nombreux métiers. Comment faites-vous pour justement faire de la RATP une entreprise inclusive ?
Alors d'abord, il y a des valeurs qui sont affirmées au plus haut niveau, avec un code éthique, avec des valeurs aussi de service public, parce que la RATP elle a une grande histoire, évidemment, d'insertion dans l'appareil d'État et de contribution à l'économie nationale. Alors, Jean Castex dit souvent que la RATP, c'est l'entreprise de la nation. Et je trouve que ça résume beaucoup de choses, parce qu'au fond, même si on a des métiers très divers, on a des agents de conduite dans le métro, dans le bus, mais on a aussi des ingénieurs, on a des gens qui font de l'innovation, on a des financiers, on a des RH, et bien tous ces collègues-là doivent pouvoir se retrouver dans un cadre commun pour travailler ensemble. Et ils le font là aussi avec des valeurs qui sont rappelées très souvent. Le respect, la tolérance, la dignité de la personne humaine, l'efficacité opérationnelle, l'attention aux usagers, aux clients. Donc tout ça se fait bien, mais c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, à la base de notre action. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à la RATP ont une claire idée de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font. Et ça, je pense que c'est toujours important d'avoir rappelé ça. On parle beaucoup de raison d'être en ce moment, mais ça revient à peu près à la même chose, hein. C'est important d'avoir ce cadrage-là pour expliquer qu'on ne travaille pas dans n'importe quelle entreprise et qu'au fond, on n'est pas tous interchangeables.
Et concrètement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions ou de processus qui sont mis en place au sein de la RATP pour justement veiller à ce que l'entreprise respecte tout le monde en fonction de ses origines, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle ou identité de genre ?
Alors d'abord, il y a une grande attention qui est donnée à la diversité et au plus haut niveau. Ça fait 2 années de suite, on est par exemple à 100 sur 100 au classement égalité qui a été créé par les pouvoirs publics, parce qu'on a notamment des politiques de promotion de la féminisation qui sont très, très actives. Pour nous, ce n'est pas de la cosmétique. On considère qu'avoir des femmes dans nos équipes, c'est très positif et c'est très bon pour tout le monde, pour elles, mais aussi pour l'ensemble du groupe. Et l'exemple a été donné au plus haut niveau parce que cette grande entreprise a été présidée par 3 femmes, la plus connue étant Elisabeth Borne, qui est devenue première ministre. Mais au-delà de ces cas-là, il y a des métiers qui sont exercés par des femmes, alors que les préjugés ou les stéréotypes pourraient les penser réservés aux hommes. C'est les cas des métiers dans la sûreté, des métiers dans la maintenance. Notre directrice, par exemple, des métros, qui a un poste stratégique chez nous, elle est occupée par une femme. Et donc voilà, on a ces politiques de féminisation qui sont très poussées. On a un programme dédié qui s'appelle RATP au féminin, avec du coaching, avec du mentorat, avec d'ateliers pour permettre de développer, par exemple, la confiance en soi ou la prise de parole. Donc ça, c'est un premier volet, un premier bloc de politiques internes à l'entreprise. Et puis, il y a les politiques externes de recrutement. Et là aussi, on est très actifs pour aller recruter dans tous les milieux, dans tous les secteurs. On va dans les collèges, on va dans les lycées, on soutient beaucoup de formations. Et là aussi, nous, on a une entreprise qui se travaille évidemment beaucoup en Ile-de-France et donc on a besoin que la RATP, elle ait un peu le visage de la région Ile-de-France. On ne peut pas ne pas ressembler à nos clients, à nos usagers, ça, c'est pas possible. Et donc voilà, donc on a mis en place beaucoup de choses. Je pense sur les sujets LGBT aussi, on a été, je pense, le premier groupe public à publier un guide sur la transidentité. Et là encore, ce n'était pas du militantisme, hein, c'était simplement parce qu'on avait des managers qui avaient des questions, qui ne savaient pas comment parler de ces questions-là. Et donc, on les a formés, on les a aidés, parce qu'on avait des collègues qui étaient concernés par des transitions de genre. Et donc, il fallait que ça se passe bien, quoi. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution que celle-là.
Donc, vous parlez de ces sujets-là ouvertement. Ils sont portés au plus haut niveau de l'entreprise. Alors, des actions très concrètes, hein. J'ai eu le plaisir d'animer avec vous une fresque de la diversité il y a quelques jours. Qu'est-ce que toi, tu as pensé, tiens, de cet outil de prise de conscience, la fresque, cet atelier de 3 heures qu'on a fait avec ton équipe ?
Alors, c'est très bien parce que justement, sur ces questions de diversité et d'inclusion, en fait, on a beaucoup d'outils et il faut sans cesse renouveler. Moi, je fais beaucoup de conférences ou d'interventions moi-même. Alors, ça prend la forme de café-conférence, ça prend la forme de petits webinaires, de visio, etc., de flyers, de guides. Mais j'ai trouvé que la fresque de la diversité, c'était pas mal parce que ça nous donnait un outil en plus. Un outil participatif, un outil qui était pas descendant, mais qui faisait appel aussi aux connaissances des gens. Et donc, j'ai été très heureux de le faire. Alors, je sais que sur les questions de développement durable, on le fait déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup déployé dans l'entreprise. Et donc j'ai été très heureux de faire cette formation-là et j'imagine, j'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres.
Tu étais, je le disais, mon invité il y a 2 ans dans Semaine Podcast. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Est-ce que tu peux me dire ce que tu observes comme changement, justement ? Alors à la fois, première partie de la question à la RATP et ensuite un peu plus largement dans la société.
Alors je vais commencer par la société. Moi je trouve qu'on est passé d'une période où finalement ces questions de diversité étaient un peu cosmétiques. C'est-à-dire qu'on disait, oui, bon, c'est bien, il faut le faire, ça donne une bonne image de l'entreprise, à quelque chose de plus systémique et plus porté sur l'efficacité. Moi, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est très subjectif, hein, et peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le réflexe consistant à recruter des gens qui ne vous ressemblent pas est de plus en plus prégnant dans les comités de direction ou dans le top management. J'ai vraiment la conviction qu'une organisation robuste, c'est une organisation où il y a des gens qui ont des profils très différents. Et pour moi, la diversité et l'inclusion, c'est une diversité qui est conçue au sens très très large. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les origines, l'orientation sexuelle, le genre, c'est aussi le diplôme. Si vous avez des gens qui ont tous fait la même école de commerce ou la même école d'ingénieur, il n'y a pas de diversité. et vous prenez des risques parce qu'ils ont tous été formés de la même façon. Si vous avez des gens qui ont tous vécu en région parisienne, bah, là aussi vous prenez des risques parce que vous n'allez pas capter qu'il va se passer un truc dans une ville de région, dans les Outre-mer, etc. Les questions d'âge aussi sont très importantes. Moi, je pense qu'il faut avoir dans les équipes des jeunes, des personnes plus expérimentées, des jeunes ou des gens qui ont passé beaucoup de temps dans l'entreprise, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Donc moi, je suis assez partisan de ça, c'est-à-dire d'avoir une grande diversité de parcours au sens très large dans les entreprises et en particulier dans le top management. Moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup infusé. Je pense que les logiques de corps, là, je vais parler de la RATP, mais les logiques, par exemple, de grands corps d'État ou de filières de recrutement et les grandes écoles d'ingénieurs, j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé, pardon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le seul fait de sortir, je sais pas, de Polytechnique ou de l'ENA, ça vous donne pas forcément droit à une fonction. Alors bien sûr, c'est plus facile hein, quand on a fait une grande école, mais j'ai l'impression quand même que les logiques corpo se sont quand même un peu affaissées.
Tu parlais des changements que tu observes en entreprise et plus largement dans la société. On voit encore quand même que, tu sais qu'on a mené une étude avec BVA People Consulting, on voit quand même que pour 63% des salariés en France, cet engagement, il est encore vu comme un axe de communication qui peine encore à s'incarner au quotidien. Donc on sait qu'il y a du travail. Comment, selon toi, l'entreprise peut justement réussir à engager et à passer, si je puis dire, de la parole aux actes, en tout cas que ce soit plus vu comme un outil de com, mais bien comme un outil de transformation profond de l'entreprise.
D'abord, je pense que le sentiment qu'il y a pu avoir et qui est révélé dans l'enquête, c'est que la période des grandes chartes ou des grands engagements, finalement, a eu des effets positifs, mais qu'elle ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir signé, je ne sais pas, telle charte ou d'avoir obtenu tel label ou telle deuxième étoile, je ne sais pas quoi, pour convaincre ses salariés. Et donc moi, je crois beaucoup à l'exemplarité, notamment quand vous nommez à des postes stratégiques des personnes issues de la diversité ou issues d'une forme de diversité ou de plusieurs diversités, je pense que ça envoie un signal très puissant. Je pense que le fait que les recruteurs et les services RH soient régulièrement formés à ces questions, je pense que c'est très bénéfique. Donc voilà, après, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Hein. On n'est pas en train de dire, tiens, on va transformer d'un coup les entreprises comme on pourrait transformer la société. Ça serait un peu naïf de le croire. Donc moi, je pense que c'est des efforts de longue haleine, d'autant plus si on essaye d'éviter les trucs un peu cosmétiques et un peu gadgets. Donc moi, j'adhère tout à fait à l'idée qu'il y a encore beaucoup de travail. Hein. J'ai jamais dit qu'on était au bout de ce processus-là. Mais ce qui est aussi très frappant, je trouve, dans l'étude que vous avez publiée, c'est que c'est une sensibilité qui est exacerbée chez les jeunes. Et notamment dans un contexte où on a du mal à recruter, où le chômage a beaucoup baissé, eh bien, si les entreprises, et d'ailleurs les administrations, c'est pareil, hein, si elles veulent employer des jeunes, si elles veulent recruter des jeunes de talent, il faut qu'elles entendent ces sensibilités-là. Donc je pense qu'elles n'auront pas le choix, en fait. Je pense que les entreprises et administrations n'auront pas le choix, ou encore moins le choix qu'aujourd'hui, et qu'il faudra qu'elle soit encore plus active sur des questions, enfin, je pense par exemple tout ce qui est harcèlement sexuel, hein, violence sexiste et sexuelle. Voilà, là, c'est pas du cosmétique, c'est pas de l'optionnel, c'est de l'obligatoire, quoi. Donc, si vous avez une politique qui gère mal ces questions-là, eh bien, je pense qu'en termes de performance d'entreprise, je parle pas d'éthique ou de morale hein, ou de droit, mais si je me place uniquement sur l'angle de la performance économique, je pense qu'elles en subiront des conséquences.
On le voit en effet, l'enquête BVA People Consulting à Effet Diversity montre que 54% des jeunes de moins de 35 ans sont prêts à démissionner en cas de désaccord avec les valeurs portées par leur entreprise, c'est énorme. Frédéric, tu as écrit un thriller politique sur une tentative de coup d'État par un groupuscule d'extrême droite. Tu as reçu d'ailleurs le prestigieux prix Edgar Faure du livre politique pour ce premier roman. Bravo. Il s'appelle La menace 732. Il dit quoi ce roman de la période dans laquelle on est aujourd'hui ?
Alors ce roman traite d'un sujet qui, moi, m'angoisse, qui est celui des coups d'État. Parce que je trouve que nos démocraties, elles sont finalement très fragiles. Elles ont beaucoup de faiblesses. Et elles ont beaucoup de mal à avancer, à progresser dans un contexte où il y a une brutalisation des rapports politiques, des rapports médiatiques, des rapports sociaux, avec un éclatement de ce qui faisait avant un peu l'unité nationale, avec beaucoup de clivages. Jérôme Fourquet parle de l'archipel français. Et donc moi, mon roman traite un peu de ça, c'est-à-dire comment, dans une période très troublée, qui est la nôtre, les institutions démocratiques peuvent surmonter des menaces de coup d'État. Et donc, j'ai écrit ce livre un peu sous le coup de l'émotion, mais aussi grâce à mon expérience dans les couloirs des ministères et de Matignon. Donc, il y a beaucoup de faits réels. En fait, j'ai inventé l'intrigue, évidemment, mais les faits réels dont je parle, c'est-à-dire les groupuscules d'extrême droite, la découverte de caches d'armes, des tentatives d'infiltration dans l'armée, etc., tout ça, ça existe. Hein. Moi, je ne suis pas allé inventer tout ça. Je vais aller chercher tout ça dans les archives de Mediapart, du Canard Enchaîné ou du Figaro. Et on l'a encore vu il y a quelques jours, hein, des défilés d'extrême droite avec des cagoules noires. Donc moi, je crois que nos institutions qu'on décrit souvent comme très dures, très robustes, très solides, au fond, elles ne sont pas tellement, pas tant que ça. Et des exemples qu'on a pu avoir aux États-Unis avec l'envahissement du Capitole ou à Brasilia, au Brésil, du saccage des institutions présidentielles, doivent nous alerter. En fait, les démocraties, elles sont très fragiles et les démocraties sans démocrates, elles ne sont pas plus solides que des châteaux de cartes. Donc c'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce roman. Alors après, c'est un vrai polar, il y a des rebondissements, etc. Mais derrière, il y a cette réflexion-là qui, moi, m'obsède un peu. Et pour faire le lien peut-être avec la diversité, c'est vrai que j'imagine dans mon livre la France présidée par une femme avec un premier ministre réunionnais, gay, franc-maçon, juif, tout ça à la fois. Alors cet homme existe, hein, d'ailleurs, c'est un de mes amis. Alors il n'est pas premier ministre. Là aussi, j'ai rien inventé. Mais j'ai voulu choisir des personnages un peu atypiques comme ça, justement parce que je trouve que la fiction et le roman, ça permet de préparer le regard et de modifier le regard. Un exemple que j'utilise très souvent, qui est celui de la série 24 heures. Dans la série 24 heures, il y avait un président américain qui était noir. Et cette série a été diffusée 3-4 ans avant que Barack Obama ne devienne président des États-Unis. Je suis assez persuadé que cette série a grand succès. Elle a préparé le regard et elle a cassé un certain nombre de préjugés. Le roman que j'ai écrit a aussi cet objectif-là, c'est-à-dire casser un certain nombre de représentations sur l'État, le pouvoir, les préfets, les services secrets, pour montrer que tout le monde peut accéder à ses fonctions. Voilà. Donc moi, dans mon roman, la chef du contre-espionnage français, elle est en fauteuil roulant, elle est d'origine asiatique.
Eh bien, j'invite nos auditrices et auditeurs à découvrir ce roman, La menace 732, aux éditions de l'Aube. J'aurais aimé passer encore un long moment à échanger avec toi, parce que c'est toujours très passionnant. Merci beaucoup, Frédéric. On termine peut-être par un petit rituel de ce podcast, un conseil pratique que tu pourrais donner à une entreprise qui voudrait avancer sur ces enjeux diversité et inclusion.
Je crois que le conseil qu'on peut donner à une entreprise qui voudrait progresser sur ces questions-là, c'est d'abord de se regarder. Je pense qu'un dirigeant d'entreprise, il a tout intérêt à regarder un peu autour de lui son top management, son COMEX. S'il se dit que les gens autour de lui ressemblent, bah c'est qu'il y a peut-être un problème. Voilà. C'est peut-être qu'il y a trop de consanguinité. S'il ne voit pas des gens qui ne lui ressemblent pas, je pense qu'il devrait peut-être se dire qu'il a un problème RH.
Ça, c'est un très bon conseil. C'est facile à faire et chacune et chacun qui nous écoute peut le faire dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce moment passé avec toi et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous les autres sur notre site www.afldiversity.com et n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas, la différence est une force.